Des hommes? Non. Des femmes? Non. Des robots? Non. Des surhommes? Implacables. Insaisissables. Invincibles. Insensibles. Aux ordres d'une super-organisation criminelle. Impossible. Rien n'est impossible pour
Culture Prohibée.
Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture planète du Ciboulot, coproduite par Radio Graphite, graphite.net, et animée par l'équipe des films de la Gorgone, les filmsdelagorgone.fr. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un podcast disponible sur différentes plateformes. Tous les détails sont sur le blog de l'émission, culture-prohibée.blogspot.com.
Je me retrouve un peu comme un cycliste qui grimpe une pente raide, qui a à gauche, à droite, des précipices. Il est obligé de pédaler, de continuer de pédaler, sinon il tombe.
Au sommaire aujourd'hui, une émission consacrée aux dernières sorties BD de nos éditeurs préférés. Nous évoquerons Thomas Sankara, Un rêve brisé, paru chez l'Armaton BD, en compagnie de son scénariste Franco Duccio. Alors cet ouvrage est illustré, pour être complet, hein, par Marco Forte et Luca Occhetti. Nous aborderons également les dernières sorties du label 619 édité par Rue de Sèvres, à savoir Slum Kids tome 1, de Petit Rapace, et Mutafukaz 2, tome 2, très exactement, de Run. Enfin, nous resterons chez Rue de Sèvres, là pour un album 100% Rue de Sèvres, qui s'appelle Au nom du Fils, dans l'enfer de la prison de San Pedro, de Jean-Blaise Djian et Pauline Djian au scénario, et Sébastien Corbet au dessin. L'équipe de Culture Prohibée remercie Virginie Robert et Dorian Sibilé pour leur aide sur cette émission. Nous vous rappelons que cette émission est réalisée en partenariat avec la revue Prime Cut, disponible sur le site de l'éditeur TheExtasyOfFilm.com, sur celui des films de la Gorgone, lesfilmsdelagorgone.fr et chez tous les bons libraires. À mes côtés pour causer 9e art, le loup-garou Picard, alias Thomas Roland, qui chaque nuit de pleine lune rédige de sanglants écrits pour la revue Prime Cut, dont il est le rédacteur en chef. Bonjour Thomas.
Bonjour Jérôme Potier, ami révolutionnaire, parce qu'aujourd'hui on va parler de révolution justement. Et bonjour évidemment à toutes les révolutionnaires.
Comme tu es inclusif aujourd'hui mon petit Thomas, comme à chaque émission d'ailleurs. Je vais en profiter pour te laisser la parole. Alors je ne sais pas si on peut me qualifier de révolutionnaire, mais en tout cas tu veux nous parler d'une BD consacrée à un dirigeant africain considéré comme un dirigeant plutôt marxiste et révolutionnaire.
Je vais effectivement évoquer une figure révolutionnaire à travers une bande dessinée intitulée Thomas Sankara, un rêve brisé, hein, tout est dans le titre, hein, donc on va parler de Thomas Sankara. Thomas Sankara qui a été le président d'un petit pays du Sahel, un petit pays situé à l'intérieur des terres du continent africain et qui est frontalier avec le Mali, le Niger, la Côte d'Ivoire. Hein, et ce petit pays s'appelle le Burkina Faso. Et donc cette bande dessinée est écrite par Franco Duccio et mise en image par Marco Forte et Luca Occhetti. Elle retrace évidemment, comme son titre l'indique, le parcours de Thomas Sankara, homme politique qui marqua les esprits dans les années 80 et qui aujourd'hui fait l'objet d'un véritable culte. C'est lui qui renomma la Haute Volta, colonie française, en Burkina Faso, association de deux mots Amouré et Dioula qui veulent dire pays des hommes intègres. Pour être intègre, il l'était Thomas Sankara par ses idées révolutionnaires et progressistes. Il a su s'imposer dans l'échiquier politique mondial au point de gêner les intérêts en particulier de la France. Le gros souci de cette bande dessinée est qu'elle se présente comme un récit. La narration et les didascalies sont omniprésentes. Il faut dire que le scénario est dense, avec beaucoup d'informations et d'événements. L'album est très beau et la couverture, au trait quelque peu naïf, ne reflète pas l'atmosphère sombre de son contenu. Si le découpage manque un peu de dynamisme du fait de cette omniprésence de didascalies, les deux dessinateurs, Marco Forte et Luca Occhetti, optent pour une mise en image assez classique, un dessin réaliste qui accentue la véracité des faits décrits et qui rend bien l'atmosphère du Burkina Faso de l'époque. On est dans les années 70-80. Et on apprend beaucoup de choses sur Thomas Sankara, un président progressiste en avance sur son temps, qui roulait en R5 et jouait de la guitare. Il a d'ailleurs joué aux côtés de Fela Kuti lors de la 10e édition du FESPACO en février 1987. D'ailleurs, il y a une petite erreur, c'est marqué musicien nigérien, mais non, Fela Kuti est un musicien nigérian, donc du Nigeria, et pas du Niger. Donc Fela Kuti et Thomas Sankara ne pouvaient que s'entendre, hein. Ils étaient révolutionnaires tous les deux, et surtout Franco Duccio signe une bande dessinée très documentée, qui décrit avec précision le processus qui a mené à l'assassinat de ce président hors du commun, à la fois anticolonialiste, écologiste et féministe, qui a su faire progresser son pays de façon spectaculaire. Malgré cela, et après la dictature de Blaise Compaoré, le traître, le Burkina Faso reste encore aujourd'hui un des plus pauvres pays du monde. Thomas Sankara, un rêve brisé, rend un bel hommage aussi bien à cet homme intègre qu'était Thomas Sankara qu'au pays qu'il a su faire évoluer.
Et nous allons de suite, mon cher Thomas, écouter Franco Duccio qui échange avec toi. Donc Franco Duccio qui est donc le scénariste de Thomas Sankara, un rêve brisé, paru chez l'Harmattan BD. Donc Franco Duccio, immédiatement, tout de suite, maintenant au micro de Culture Prohibée.
La révolution est victoire. L'échec appartient à la réaction et à la contre-révolution.
Et pour parler de Thomas Sankara, un rêve brisé, je suis avec Franco Duccio, le scénariste. Franco Duccio, bonjour.
Bonjour, Thomas.
Franco Duccio, je ne trouve aucun élément biographique vous concernant. Et Thomas Sankara, un rêve brisé, me semble être votre première bande dessinée. Enfin, c'est ce que j'en conclus. Et que pouvez-vous nous dire sur votre parcours ?
Oui, c'est correct. En effet, quand l'éditeur m'a demandé la biographie, bah, normalement, ce sont des auteurs qui ont déjà travaillé dans le secteur, donc ils ont un CV plutôt fourré. Donc, moi, c'est ma première, c'est mon premier ouvrage. Je suis un retraité, je fais tout autre dans ma vie, donc j'étais très discret quand j'ai donné ma biographie, effectivement.
Et comment s'est effectuée votre rencontre avec le Burkina Faso et la personnalité de Thomas Sankara ?
Moi, j'ai écrit quelque chose dans la préface, c'est-à-dire j'étais juste à la retraite et j'étais un jour sur le canapé qui était en train de faire zapping à la télé. Je suis tombé sur une émission, je me souviens plus laquelle, si c'était sur Arte ou sur LCP. Et ça commençait ce documentaire sur la vie de Thomas Sankara. On parle de 2016, hein, de tout ça. Ça a commencé il y a 7 ans. Et alors, ça m'a résonné dans la tête Thomas Sankara. En 1983, quand il a pris le pouvoir, moi je vivais en Italie. L'Italie, vous savez, n'a pas un passé colonial important comme celui de la France. Donc les échos de l'Afrique, des événements de l'Afrique en Italie, c'était moins important que non en France. Et donc je me souvenais de quelque chose. Et je me suis dit, bon, regardons ce documentaire, voyons qu'est-ce qu'il fait maintenant Sankara. Je ne savais même pas qu'il avait été assassiné et qu'il était mort. Et donc je regardais le documentaire et comme je dis dans la préface, à la fin du documentaire, moi j'étais plus le même. Je sentais vraiment un sentiment de révolte. par rapport à ce qui était arrivé à Thomas Sankara. Et je sentais que je devais faire quelque chose, je savais pas, même pas quoi. Et il n'y a rien de rationnel dans le commencement de mon aventure dans la bande dessinée. À un certain point, ça m'est venu à l'esprit d'écrire un scénario pour une bande dessinée en pensant que la bande dessinée, c'est un moyen qui peut rejoindre plus facilement des jeunes qui n'avaient jamais connu Thomas Sankara et qui pouvait être une bonne idée de faire quelque chose pour le faire connaître. Et ça a commencé cette aventure qui est arrivée au bout après 7 ans. Ça a été très fatigant.
Donc 7 ans d'écriture, 7 ans, je suppose, de recherche. Comment avez-vous axé vos recherches? Êtes-vous allé au pays? Quelles informations avez-vous glanées?
Oui, donc, alors, je dois dire que effectivement, si vous voulez, la partie moins difficile, ça a été d'écrire le scénario. Parce que, heureusement, disons, les années Sankara, ça fait 40 ans, donc il y a beaucoup de traces écrites sur Internet, il y a beaucoup de vidéos, il y a des sites un partout, thomassankara.net, qui est très riche de documentation. Donc, j'ai eu la possibilité de m'informer et d'être dans la possibilité d'écrire le scénario. Le plus difficile, en réalité, ça a été de trouver les dessinateurs et de trouver un éditeur. Ça a été très difficile et c'est pour ça que j'ai employé beaucoup de temps pour arriver au bout.
Et vous vous êtes déplacé, vous êtes allé au Burkina Faso
Non, vraiment pas. Je n'ai pas eu, disons, la nécessité d'y aller. Même si la bande dessinée, le scénario de la bande dessinée est, j'oserais dire, assez complet du point de vue historique, c'est quand même, comment je peux dire, une invitation à aller dans le fond du personnage Sankara. Donc c'est un début, c'est une invitation, c'est simplifié, si vous voulez. J'espère qu'il y aura quelques jeunes qui s'informera plus sur la vie de Sankara et surtout sur son œuvre. Effectivement, nous, on a mis à la fin de la bande dessinée une bibliographie que toutes les personnes qui voudront y trouveront de quoi lire pour s'informer mieux.
Mais au cours de vos recherches, vous citez Internet, vous avez rencontré des témoins de l'époque, des personnalités?
Non, vraiment, tout s'est basé sur les écritures. Donc, il y a les biographies écrites, surtout les biographies écrites par Bruno Jaffray. J'ai lu le livre de Valère Sommet. Et j'ai lu beaucoup de documents que, comme je vous disais, se trouvent sur Internet des personnalités qui, à l'époque, faisaient partie de la Révolution ou qui étaient même contraires. Donc, il y avait assez de documentation pour arriver au bout du travail de l'écriture, disons.
La bande dessinée semble effectivement très complète sur le plan historique et donc, tout ce que vous mettez dans la bouche des personnages, c'est donc vérifié par rapport à cette biographie et les documents que vous avez trouvés sur Internet. Et ce sont des... Tout ce que vous mettez dans la bouche des personnages, c'est historique?
Non, bien sûr. Alors, ce que sort de la bouche, disons, des moments officiels, disons, sans doute, parce qu'il y a des documentations écrites et même vidéos. Donc, si on parle des discours de Sankara à l'ONU ou à Addis Abeba, le dernier discours qu'il a fait, ou la joute verbale avec le président Mitterrand, tout ça, c'est historique. On le retrouve même en vidéo sur Internet. Naturellement, vous le savez bien, j'imagine, il y a cette idée que derrière la mort de Sankara, il y a l'intervention de services de renseignement de la France, des États-Unis, des choses comme ça qui ne sont pas démontrées. Et donc, toute la partie, si vous voulez, du complot, les paroles qui sortent de la bouche, par exemple, de Houphouët Boigny ou des services de renseignement, des agents de renseignement, naturellement, ce n'est pas historique, c'est imaginé.
On apprend beaucoup de choses hein, au cours de la lecture de cette bande dessinée. Et il y a un passage qui m'a particulièrement interpellé. C'est ce mystérieux coup de fil d'une femme qui prévient Thomas Sankara juste avant son assassinat. Est-ce que vous avez cherché à en savoir plus ?
Ah oui, oui, j'ai cherché partout. Et j'ai pas trouvé. Par contre, j'ai trouvé des déclarations de la femme de Sankara qui avait affirmé dans une interview qu'il avait téléphoné à Thomas aux alentours de 15h30, juste avant que Sankara sorte pour aller à la fatale réunion. Donc il semble qu'il y ait un appel de la femme. Mais effectivement, dans la bande dessinée, j'ai reporté, je ne me souviens plus, je pense que c'est dans le livre de Valère Sommet ou dans une déclaration d'un autre personnage, on parle de la rencontre de Thomas Sankara avec un fonctionnaire juste avant de sa sortie. Peut-être que c'est celui-ci qui a dit qu'il a reçu un appel. Mais la réponse de Sankara que j'ai mis sur la bande dessinée ne s'accorde pas vraiment à ce que dit la femme de Sankara dans l'interview. Donc peut-être qu'il y a eu un autre coup de fil. Moi aussi, j'ai été très intrigué par cette déclaration, mais malheureusement, je n'ai rien trouvé de plus.
Vous écoutez Franco Duzio, scénariste de Thomas Sankara, un rêve brisé publié chez l'Armaton BD au micro de Culture Pro.
Le pouvoir se prend par les urnes et non par les armes.
Vous dites que c'est votre première bande dessinée, que vous avez eu envie de l'écrire sous forme de bande dessinée pour
oui.
faire connaître à des lecteurs plus jeunes. Donc vous êtes lancé comme ça et comment vous avez rencontré, vous dites que vous avez eu des difficultés à trouver des dessinateurs et comment ça s'est passé pour cette rencontre de dessinateurs et comment les avez convaincus?
Donc alors effectivement j'ai eu beaucoup de difficultés parce que comme je vous ai dit, j'étais tout nouveau au monde de la bande dessinée et donc j'ai très humblement et très naïvement, je dirais, j'ai j'ai commencé à chercher des dessinateurs simplement parce que quand j'ai terminé le scénario, je l'ai envoyé à tous les éditeurs français de bandes dessinées. J'ai étudié le catalogue de ces de maisons d'édition. Donc là où je voyais la possibilité de voir dans ce catalogue un ouvrage comme celui que j'avais écrit, alors je me marquais l'éditeur et j'envoyais le scénario. Donc la première réponse, pour ceux qui ont répondu, parce que très souvent, vous trouvez sur le site internet des éditeurs un avis qui dit « si vous ne recevez pas de réponse d'entre moi, bon, abandonnez l'espoir de publier ». Donc, ils ne répondent même pas. Ceux qui répondaient me disaient « nous ne sommes pas intéressés à un scénario, nous, on veut des ouvrages complets ». Et là, ça a commencé l'odyssée des dessinateurs. J'ai compris que la plupart des dessinateurs sont déjà engagés avec les maisons d'édition, surtout pour faire des séries. Je ne sais pas, par exemple, les séries d'Astérix, les séries de Dr. Mortimer, les séries de ces personnages très fameux qui ont vendu par milliers et milliers d'exemplaires. Donc, ils n'ont pas le temps de faire autre chose. Et donc, je suis arrivé au dessinateur en interpellant des écoles spécifiques pour les dessinateurs de bandes dessinées. Je demandais s'ils avaient de bons élèves avec un style réaliste qui pouvaient être intéressés à ça. C'est comme ça que j'ai trouvé ces deux jeunes qui viennent de l'école de Turin, en Italie, et qui ont même fasciné par la personnalité de Sankara, et donc ils ont accepté de m'accompagner dans cette aventure.
Donc c'est aussi les deux dessinateurs, c'est aussi leur première BD alors?
Bon, ils ont fait... Bon, complète, oui, sans doute. Ils avaient fait des autres travaux, mais dans une quantité mineure, disons, comme nombre de pages et comme engagement, je dirais, parce que ils ont dû bien planifier leur temps de travail, parce que en étant très jeunes, ils avaient besoin même de gagner leur vie, donc ils faisaient des autres travaux et ils ont dû installer une discipline chez eux. Vous savez, les artistes sont souvent un peu comme ça.
Alors, ce qui m'interpelle aussi, c'est que ce sont deux dessinateurs. Alors, comment vous avez travaillé à trois? Alors, vous, apparemment, vous aviez une idée assez précise de ce que vous vouliez en termes de dessin. Vous avez parlé de rechercher des dessinateurs qui font des choses plutôt réalistes. Oui. Et comment se sont-ils partagés le travail en étant deux dessinateurs pour un même scénario? Ça m'interpelle un peu.
Non, en réalité, ça a marché très bien. Parce que dans ma quête de dessinateur, je suis tombé heureusement dans un autre dessinateur, un autre Italien, qui m'a dit « moi, je n'ai pas le temps de le faire, le projet est très intéressant, continuez ». Et il m'avait envoyé un exemple de scénario sur lequel il avait travaillé, c'était une biographie, là aussi. Et j'ai un peu réécrit le scénario en suivant cet exemple parce que il y avait vignette par vignette de la part du scénariste des indications sur le plan qu'on devait utiliser. Il y avait toute la partie de recherche iconographique attachée à chaque vignette. Donc j'ai pris cet exemple, donc j'ai donné du matériel assez complet au dessinateur qui s'était divisé le travail. Donc un faisait le blanc et noir et l'autre il a fait la couleur. Heureusement les deux se connaissaient parce qu'ils venaient de la même école, ils sont amis entre eux, donc ça s'est passé plutôt très bien la partie graphique.
L'éditeur est venu à quel moment ? Est-ce que ça a été compliqué ?
Très compliqué. Parce que même quand j'ai eu le scénariste, j'ai eu le scénario et j'ai eu les dessinateurs, obéissant à la requête des éditeurs que dans leur site donnent des conseils aux auteurs qui veulent proposer quelque chose. Donc nous, on a préparé une synthèse de l'histoire, on a fait des dessins pour montrer le style, on a même donné les premières 5 pages de l'ouvrage terminées et colorées. Et donc j'ai envoyé ce dossier encore une fois à tous les éditeurs français que je pouvais imaginer intéressés à cette édition. Et là, j'ai eu encore une fois pas de réponse ou de réponse négative. La seule positive est venue par Harmattan, qui est spécialisé, si vous voulez, dans les ouvrages qui regardent surtout l'Afrique, donc c'était leur pain, je dirais. Et je dois dire que j'ai même eu une réponse qui m'a vraiment touché, en sens négatif, je dois dire. Je l'avais même, je voudrais vous la lire en original, parce que alors c'est une grande maison d'édition, une des plus importantes de France. Donc j'avais envoyé spécifiquement à eux, parce que en étudiant les catalogues des maisons d'édition, j'avais vu que eux ils publiaient des biographies, et spécifiquement même des biographies d'hommes politiques. Donc j'ai dit, voilà, j'ai trouvé ma maison d'édition. Donc j'ai tout envoyé et j'ai reçu cette réponse que je vous lis. Monsieur Duzio, votre projet est très intéressant et tout à fait dans le champ de notre maison d'édition. Mais je pense que cette histoire appartient aux Burkinabés et que ce n'est pas à nous de la raconter à leur place. Par ailleurs, nous avons déjà un planning très chargé pour les années à venir, les choses un peu diplomatiques qu'on dit en ce cas. Mais ça m'avait vraiment un peu choqué, parce que dans leur catalogue, il y avait la biographie de Kennedy, si je ne me trompe pas, avec la mémoire même de Churchill. Donc ils n'avaient pas laissé aux Américains ou aux Anglais le fait de raconter l'histoire de ces hommes politiques. Pour Sankara, selon eux, on devait le laisser au Burkinabé. Je vous laisse l'interprétation.
Moi, j'en ai une. Sitôt qu'on commence à toucher l'Afrique, ça devient compliqué de parler, de promouvoir des œuvres qui viennent d'Afrique. Voilà.
Une trahison entraîne toujours une autre trahison. Il n'y a pas de saison. Et là, j'ai raison. Le pouvoir se prend par les urnes.
Et ça, je vous l'avais déjà dit.
Et non par les armes.
Vous écoutez Franco Duzio, scénariste de Thomas Sankara, Un rêve brisé, publié chez l'Harmattan BD, au micro de Culture Prohibée.
Vous avez donc rencontré Christophe Cassiori, qui est le directeur de collection de l'Harmattan BD.
Oui.
Et
toujours par téléphone. J'ai fait tout sans bouger de menton.
D'accord. Et comment vous avez travaillé ensemble ? Est-ce qu'il vous a fait refaire des choses, ou est-ce qu'il a pris vraiment votre projet tel que vous l'aviez fait avec vos deux dessinateurs ?
Non, moi, je dois dire que dans mon esprit, bon, dans la jeunesse, même si je n'ai pas terminé, j'ai fait des études universitaires à Sciences Po. Donc, quand j'ai écrit le scénario, vraiment, j'avais l'intention d'être très réaliste, de raconter une histoire avec la H majuscule. Donc, l'histoire, pas trop de romanesque seulement là où était nécessaire, et de présenter la figure de Sankara dans une façon historique. Et dans l'enthousiasme, j'imagine, j'ai été probablement trop abondant dans les détails, dans les particuliers. Et donc, Christophe, en effet, m'a demandé de couper le texte. En effet, par rapport à l'original, j'ai coupé un 20% de texte. Surtout là où il y a les discours de Sankara, parce que je voulais mettre le plus possible, faire connaître la pensée de Sankara. Donc, les discours, il y avait beaucoup de textes. Et là, j'ai dû couper, j'ai dû maintenir l'essentiel. Mais je ne regrette pas ça, parce que je pense que dans l'essentiel, l'album il fait son travail comme je l'ai pensé au début.
Alors, vous dites avoir rencontré la personnalité de Thomas Sankara via un documentaire à la télévision. Alors, Thomas Sankara, c'était quand même un président un peu hors norme. Hein. Il roulait en R5, hein, je crois. Il était quand même assez humble. Il jouait de la guitare. Et j'ai appris via votre bande dessinée qu'il a même joué avec Fela Kuti lors d'une édition du FESPACO, chose que je ne savais pas. Et qu'est-ce qui vous a frappé, qu'est-ce qui vous a touché en particulier dans la personnalité de Thomas Sankara?
Surtout, moi, j'ai trouvé vraiment en avance des temps ses idées par rapport non seulement à l'Afrique, mais moi, je dirais au monde entier. Si vous pensez à l'idée qui avait Sankara de l'émancipation de la femme, de l'environnement, lui, militaire, sa pensée à propos de la guerre, des militaires même, quand il dit qu'un militaire sans éducation politique, c'est un assassin en puissance, ça dit grand-chose de ce qu'il était son pensée sur la guerre. Donc, des idées qu'encore aujourd'hui, sont difficilement acceptés dans beaucoup de pays, et pas même les plus arriérés, même dans les pays que nous considérons les plus civilisés, il y a des résistances sur déterminés arguments.
Alors, j'ai une dernière question. Je ne sais pas si vous continuez à vous intéresser au Burkina Faso, mais aujourd'hui, il y a donc ce nouveau président qui a participé aux deux coups d'État en 2022. Hein. Donc, Burkina Faso, c'est le pays où il y a deux coups d'État par an. Donc Ibrahim Traoré, il s'habille comme Thomas Sankara, c'est un militaire hein, au départ, hein. Il s'habille comme Thomas Sankara avec le béret rouge, l'uniforme, et il se revendique aussi d'une pensée marxiste et de l'héritage de Thomas Sankara. Et vous, qu'en pensez-vous?
Avant tout, pour ceux que je connais, hein, parce que j'ai lu quelque chose, et donc je ne veux pas me pousser trop au-delà de ce que je connais. Mais déjà, comment je peux dire, Sankara, quand il est arrivé au pouvoir, avait déjà fait quand même, il avait une belle expérience de guerre avec la guerre du Mali, même dans le gouvernement de Saïd Zerbo, il avait été ministre pour la communication, un peu plus d'expérience sans doute en champ politique, et je pense que quand il est arrivé au pouvoir, il avait un dessin dans sa tête, un dessin qu'il n'est pas arrivé à compléter, tandis que Ibrahim Traoré, j'ai lu quelque chose, il a appelé comme premier ministre un homme qui avait fait partie de la révolution de Sankara, et ils ont décidé décidé de diviser les engagements, c'est-à-dire Ibrahim Traoré a comme, comment je peux dire, principale préoccupation la sécurité de l'État avec tous les problèmes de terrorisme avec les djihadistes qu'il a le Burkina Faso, tandis que le rapport avec la société civile est tenu par le Premier ministre. Donc, il me semble déjà là très différent. En plus, vous savez, c'est facile de se rappeler de Sankara quand on fait des déclarations, parce que quand même le peuple, je pense, aime encore Sankara. Mais après, ce seront les faits qui diront si c'est dans cette lignée ou non. Pour le moment, effectivement, on ne peut pas dire ça. Et ils sont très occupés avec les problèmes de sécurité. Et donc, ils sont un peu en difficulté pour tous les autres problèmes qu'il y a le Burkina Faso.
Ouh là 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 là. De vengeance en vengeance, l'Afrique a tombé dans la déchéance. Vouloir venger Sankara, c'est perpétuer la bêtise. La bêtise politique, antidémocratique. Soif de pouvoir, c'est la boulimie du pouvoir, c'est la gourmandise du pouvoir.
Écoutez Culture Prohibée.
Sankara, Thomas Sankara, Sankara, Thomas Sankara. Ouh là 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 là.
Je rappelle que cette BD dont vous parliez à l'instant avec le scénariste Franco Duccio donc s'appelle Thomas Sankara, un rêve brisé. Elle est parue chez L'Armatan BD. Et au dessin, il y a Marco Forte et Luca Occhetti. Et on vous la conseille vivement. Tout comme nous vous conseillons les dernières sorties du label 619, édité par Rue de Sèvres, à savoir Slum Kids tome 1 de Petit Rapace et Mutafukas tome 2 de Run. Et oui, parce que le label 619 n'est plus maintenant depuis quelque temps chez Ankama, mais il est bel et bien passé chez Rue de Sèvres. Et on va d'abord vous parler de la BD qu'on n'attendait peut-être pas forcément, pas autant que la suivante en tout cas, voilà, et qui se révèle être excellente. Alors c'est une BD signée Petit Rapace. Alors Petit Rapace, pseudo très sympa pour en fait un petit Nantais qui s'appelle Simon Tuillier, mais Petit Rapace, ça en jette plus, hein, voilà. Et qui s'était fait découvrir, c'est un jeune talent, hein, et le label 619 eh bien, arrive toujours à nous dénicher des talents incroyables. Et ils ont comment dire, poussé ce jeune homme, Petit Rapace, donc, à commencer à travailler sur les anthologies Low Reader. Alors, Low Reader, après, il y avait Doggy Bags aussi, hein, qui sont des séries d'albums qui contiennent des petites histoires un peu dans la tradition de ce que pouvaient faire les EC Comics, sauf que là on est dans évidemment des trucs qui sont imprégnés d'une culture plus contemporaine, quoi, mais on est vraiment dans cet état d'esprit et on avait pu découvrir l'univers déjà de Petit Rapace, univers très très intéressant parce qu'il a un côté, comment dire, un graphisme qui peut paraître enfantin mais un graphisme enfantin perverti par la violence, voilà, c'est très très intéressant avec un grand grand soin apporté aux couleurs, enfin voilà, on va en parler un peu plus. Et dans Low Reader 2, il y avait eu un récit déjà Slum Kids qui s'intéressait au sort d'un petit gars qui s'appelle Iggy, qui vivait dans une immense décharge, hein, c'est comme si le monde était devenu une immense décharge à ciel ouvert, et qui était en fait, qui transportait de la drogue pour les petits gars du coin et qui avait une destinée, ma foi, assez peu enviable, hein, voilà, et c'était alors, bah, sur prostitution, drogue, tout ça, mêlé à l'univers des enfants, on comprend tout de suite que le graphisme de Petit Rapace peut venir parfois en contradiction avec, et avec les univers qu'il décrit. Eh bien, si vous aviez apprécié cette, ce petit segment de Low Rider, vous devez absolument vous plonger dans ce tome 1 de Slum Kids, qui sera donc une série, alors si j'ai bien compris le principe, qui sera une série où on risque de changer à chaque fois de protagoniste. Quoique, à voir. Et dans le premier volume, là, qui est donc paru dans le label 619 chez Rue de Sèvres, on peut suivre la destinée de Ngui, qui avait fait une courte apparition, hein, dans l'histoire que je viens de citer, là, publiée dans l'anthologie Low Rider, de Lombric et de Bambi. Donc il y a une jeune fille et deux garçons, deux petits garçons. Et bah, Lombric, qui est un peu une drôle de tête, qui est un peu une tête de Lombric, hein, d'où son surnom, c'est un peu c'est le mouton noir, quoi. C'est celui qui est toujours pris pour cible par les autres, c'est le bouc émissaire plus exactement, et qui est régulièrement battu, maltraité par les autres, ce qui fait que le reste de l'équipe vient le sauver, vient le défendre. Parfois avec beaucoup de violence. Et bah oui, parce que l'univers de Slum Kids, c'est un univers très très violent, très radical, très dur. Et on très très vite, hein, dès qu'on pénètre dans la BD, on comprend tout de suite que on va voir des choses assez horribles. D'ailleurs, la tagline de la BD, c'est un des dialogues qu'a un des personnages à un moment dans la BD, c'est de quoi un gosse. Mais je fume, je sniffe, j'ai tué, j'ai braqué, moi aussi je suis un homme. Voilà, et c'est ça la tagline de la BD. Ça on dit long, parce qu'effectivement, c'est des gamins qui ont grandi trop vite et qui vivent dans un univers où violence, prostitution, meurtre, trafic de stupéfiants sont les ingrédients au quotidien de ce monde nietzschéen où donc seuls les plus forts réussissent à survivre. Et la noirceur de cette BD qui se lit et qui se dévore, hein, la lecture est hyper fluide, contamine petit à petit le graphisme et qui est pour moi, hein, cette BD, sa force principale, c'est ce contraste que j'évoquais tout à l'heure entre le trait très disneyen et Disney sous acide, attention, hein, pas hey ho, nous partons au boulot, c'est hey ho, nous partons chercher de la dope, et la violence crue du quotidien de ces gamins, en fait. Et ça se termine dans quelque chose qui est absolument apocalyptique, qui n'est pas sans évoquer le Akira de Katsuhiro Otomo, mais peut-être qu'un jour on pourra en discuter avec Petit Rapace. J'aimerais beaucoup échanger avec ce jeune dessinateur, et en tout cas je vous recommande donc grandement Slum Kids de Petit Rapace, du label 619, paru chez Rue de Sèvres. Yo, you about done? Tick-tock, motherfucker. Alors maintenant, je vais vous parler de, voilà, toujours au label 619. Label 619, quand même, bon, il est créé par quelqu'un, il est lancé par une BD exceptionnelle. Il est créé par un certain Run, voilà. Et cette BD, c'est Muta Fukaz. Alors, qui ne connaît pas Muta Fukaz ne connaît pas une des meilleures BD de l'histoire de la bande dessinée. Hein. Avant de lire Muta Fukaz, je ne plaçais quasiment, alors je lis tout, hein, je lis de la BD franco-belge, je lis de la BD, voilà, de toutes sortes, de toutes origines, mais avant je ne plaçais dans mon top 5 que des comics, et puis est arrivé Muta Fukaz qui est venu se glisser quand même entre les travaux d'Alan Moore et de Frank Miller, et le Transmétropolitan aussi, enfin voilà, qui est venu se glisser entre tout ce petit monde parce que j'ai pris une claque monumentale en voyant Muta Fukaz. Alors Muta Fukaz, c'est qu'est-ce que c'est que cette BD ? Alors, je vais vous parler un peu de Muta Fukaz, la première partie, puisque là on est dans Muta Fukaz top 2. Je ne vais pas vous parler des crossovers, parce qu'il y a tout un univers du coup qui s'est créé autour de Muta Fukaz, qui a été traduit dans plein de pays, qui a donné lieu à un film d'animation génial, vraiment sensationnel, à la hauteur de la BD, et qui est sorti en 2017, qui a été réalisé par Shojiro Nishimi et par Run en personne. Voilà, film d'animation l'illustration est géniale, et en plus c'est bien parce que c'est pas une reprise de la BD, c'est un complément à la BD, donc c'est ça qui est sensationnel. Donc c'est tout un univers, hein, Moutafoukaz, et c'est l'épopée, c'est l'histoire de deux petits bonhommes, hein, qui s'appellent Vince et Angelino. Alors il y en a un qui a le visage totalement noir, avec juste deux yeux blancs qui ressortent comme ça, un peu deux yeux blancs un peu à la Igabiva, justement, on reste dans les références disneyennes. Et il y a l'autre, qui, alors là on va aller plutôt sur le Ghost Rider, hein, de Marvel, qui a une tête de mort. Sa tête, c'est une tête de mort, et il y a des flammes qui sortent de cette tête. Voilà. D'ailleurs, c'est un truc qui l'angoisse tout le temps. Il a peur d'aller à la piscine et tout, parce qu'il se demande si sa flamme va s'éteindre et tout. Enfin, genre de choses qu'on retrouve dans le MFK2, là, dont on va parler après. Alors, ces deux personnes, ces deux petits gars, ils habitent dans une ville californienne qui en fait n'existe pas, qui s'appelle Dark Meat City. Et puis un jour, Angelino, il a un hyper mal à la tête après un accident de scooter, et il se met à délirer totalement, et Vince ne le croit pas du tout, quoi. Qu'est-ce que tu me fais, Angelino ? Voilà. Donc il va chez le toubib, et ils vont se balader dans les quartiers chauds de Rias Rosas, tout ça, et puis ils vont se retrouver face à des hommes façon Men in Black, qui veulent les éliminer. Et là, va démarrer une saga qui donc n'est toujours pas finie aujourd'hui, qui est quand même la synthèse de toute la contre-culture et de la culture populaire depuis les années 50, et en particulier celle des États-Unis. C'est-à-dire qu'on y retrouve aussi bien trace des films de SF parano façon Invasion of the Body Snatchers, on y retrouve aussi bien trace de la culture hip-hop, du mouvement hippie, de la lucha libre, j'en oublie, et graphiquement en plus on retrouve trace de tous les grands mouvements graphiques et artistiques de la fin du XXe siècle et du début du XXIe siècle. C'est d'une telle inventivité en fait que là, si on avait décidé de consacrer entièrement l'émission à Moutafoukaz, en fait, ça ne suffisait pas. Tellement il y a de thématiques abordées, tellement il y a de pistes tracées dans ce chef-d'œuvre de la BD contemporaine. Le mot est lâché. Hein, alors, je suis moins enthousiaste sur les divers spin-offs, mais la BD en elle-même, Moutafoukaz, la BD qui s'intitule Moutafoukaz, et sa suite, là, Moutafoukaz 2, là, qui aujourd'hui, de toute façon, hein, qui est donc toujours au label 619 et qui sort chez Rue de Sèvres, qui est donc aujourd'hui est tellement célèbre qu'on décide de même plus l'appeler Moutafoukaz, on l'a réduit à MFK2, parce que de toute façon, on sait que les lecteurs vont se précipiter dessus. Hein. Moi, je l'attendais fébrilement, hein, quand le premier tome était vraiment excellent, puisqu'on avait retrouvé Vince et Nino, qui étaient donc ciblés par le gouvernement après avoir été donc pris dans un attentat au sein d'un restaurant japonais. Hein, et ils avaient été accusés à tort de servir de couverture un réseau de trafic d'enfants, parce qu'en plus, il y a toutes les peurs contemporaines qui sont abordées, toutes les théories du complot, MFK2, là, dans le dernier volume, ça tape sur Elon Musk, ça tape. Enfin, c'est super intéressant dans ce que ça déploie, parce que ça le fait subtilement. Et le gouvernement avait décidé d'envoyer ces hommes d'élite, hein, ces hommes et ces femmes d'élite, hein, pour attraper Angelino, parce qu'ils sont persuadés que Angelino est un macho, c'est-à-dire une espèce dangereuse pour le reste de l'humanité, bien destinée à remettre le bordel en fait, hein, aux USA. Et donc il faut l'éliminer. Et du coup, il y a une sorte de road movie halluciné qui avait lieu dans le premier tome de MFK2, où ils allaient chercher Willy, un de leurs vieux potes, et Willy, ils le retrouvaient, qui était devenu gourou d'une secte d'illuminés qui vivait à poil en fait dans le désert. Avec évidemment, typiquement américain, c'est-à-dire à la fois hippie, mais à la fois complotiste, et puis à la fois également très fan des armes à feu. Voilà, c'est un mélange de naturisme et d'extrême droite qui était assez fascinant. Et là, il y a le trio qui va arriver dans la ville de Dark Vegas. D'ailleurs, on parlait de Willy à l'instant. Willy s'est fait des dreadlocks, et il y a un moment, une scène sur l'inclusion qui est assez énorme, où en fait, deux blancs l'arrêtent pour lui dire qu'il n'a pas le droit d'avoir des dreadlocks parce qu'il n'est pas noir, et c'est Noir qui vient le sauver. C'est assez drôle, c'est assez sympathique, voilà, c'est assez délirant. Et la ville de Dark Vegas, c'est une version sombre de Las Vegas, évidemment, où tout est permis, et où avec leur magot, là, les trois, parce qu'ils ont un magot, hein, je vous en dis pas plus, faut lire la BD, viennent se planquer dans la ville. Et là, bah, qu'est-ce que c'est? Bah, là, c'est le Aliens de James Cameron, qui commence. C'est l'apocalypse en BD, hein, dans un monde dystopique qui, par bien des aspects, ressemble au nôtre. Hein. Donc là encore, délire graphique, avec en particulier des changements de style et qui sont où la dinguerie, la folie de Ron va même jusqu'à impliquer le fait de changer de type de papier au sein de l'ouvrage pour pouvoir pratiquer des aplats de comics façon pointillisme, comme il y avait dans les comics des années 50, parce qu'il y a toute une partie où il change un peu le type de narration. Enfin, c'est du délire, mais total, dans le sens où c'est d'une dinguerie, mais en même temps d'une telle rigueur dans la manière dont c'est fait. Le travail est tellement extraordinaire. Et l'éditeur, il va jusqu'au bout, puisqu'il adapte donc la qualité de son papier au style choisi par le dessinateur. C'est quand même assez dément. Bon, évidemment, c'est un must. Maintenant, on attend le tome 3, hein, parce que le problème de Moutaf, c'est que les tomes sont longs à venir. Il y a un tel boulot sur chaque tome qu'à chaque fois, bah, après, je trépigne d'impatience en attendant le prochain volume. Donc là, c'est MFK2, donc Moutafoukas 2, tome 2. C'est donc paru chez Rue de Sèvres, le label 619. Et maintenant, je dis, mais à quand la suite? Et puis, à quand Run dans notre émission? Bon sang de bois, mais un jour, je vous promets, chers auditrices et auditeurs, que nous interviewerons Run, la légende. Écoutez Culture Prohibée spéciale bande dessinée. Va rester chez l'éditeur Rue de Sèvres et terminer par Au nom du Fils dans l'enfer de la prison de San Pedro. Alors tout est un peu dans le titre, hein, voilà. Qui est une BD scénarisée par Jean Blaise et Pauline Dian et qui est dessinée par Sébastien Corbet. C'est simple. C'est un père qui ne s'est jamais beaucoup occupé de son fils, qui vit en France. Enfin, en tout cas, qui semble lui considérer qu'il s'en est pas bien occupé, qui est divorcé. Et il apprend que son fils était en Bolivie. Qu'il était emprisonné dans une prison de San Pedro, qu'il travaillait avec un journaliste bolivien, et c'est le journaliste bolivien d'ailleurs qui contacte le père, hein, pour lui dire que le fils en fait a été assassiné dans cette prison. Alors du coup, le père décide de tout lâcher, de vendre son appartement, de partir avec le fric en Bolivie, de commettre un crime et de se faire enfermer dans cette prison de San Pedro. Pour retrouver l'homme qui a tué son fils, mais aussi pour essayer de comprendre son fils qu'il avait perdu de vue depuis des années, d'autant plus qu'il apprend par ce journaliste que son fils parlait sans cesse de son père en bien. Parce que lui, il ne comprend pas, parce que lui, il estimait qu'il n'avait pas éduqué son fils, qu'il avait laissé tomber. Alors, va démarrer alors une BD un peu particulière, dès que le père décide de se séparer de tous ses biens et de commettre un crime pour être enfermé dans cette prison, puisqu'on va se retrouver dans un univers alors un peu particulier. Cette prison, en fait, elle ressemble plutôt à un village avec ses codes. C'est une société, c'est un microcosme à part entière. Et même une fois par semaine, d'ailleurs, elle est visitée par des touristes. Alors, ça peut vous paraître délirant, mais en fait, la visite par les touristes, je ne sais pas, mais les prisons en Amérique du Sud, qui sont des vrais villages, avec des règles de vie et tout ça et tout, c'est quelque chose, en fait, qui existe. Et d'ailleurs, qui a été mise en série, dans une série... la première saison est vraiment excellente, après ça part un peu en sucette, mais dans une série argentine qui s'appelle El Marginal, où on voit ça, d'histoire d'un flic infiltré qui se retrouve comme ça dans une prison de ce type. Et là, on voit, là, c'est différent, c'est un homme simple, c'est un colosse, hein, qui en fait a un cœur en or, mais qui est un colosse, hein, il est quand même plus gaulé, genre Sébastien Chabal. Hein. Ce qui aide hein, quand on se fait foutre en prison au milieu d'une bande de truands psychopathes. Voilà. Et il va découvrir en fait un monde parallèle où l'humanité la plus grande peut surgir d'un océan de vilenie. C'est une vraie réussite que cette BD, au style limpide, à la lecture très fluide, et rendue d'ailleurs fluide et passionnante, non pas de par son sujet, mais de par sa galerie de personnages atypique en fait, et particulièrement attachant ou effrayant. Voilà. Et ça donne une BD qui est, bon, faut le dire, hein, c'est, en fait quand on lit cette BD, on se dit que ça pourrait être un scénar de Sinoche pour faire un film rudement efficace de prison, voilà, qu'on aurait presque envie de voir adapté. On parlait que Moutafoukaz avait été adapté en film d'animation, ça pourquoi pas en film live, mais en tout cas un bon moment, une bonne BD que je vous recommande vivement. Bon, c'est une BD qui est particulièrement bien mise en image et qui, moi, je vous le dis, hein, pour moi, c'est le storyboard d'un futur film de prison. Donc, on croise les doigts, peut-être que ça va intéresser un producteur, allez savoir, mais on vous recommande donc vivement Au nom du fils dans l'enfer de la prison de San Pedro, disponible chez Rue de Sèvres. C'est signé Pauline et Jean-Blaise Dian au scénario et Sébastien Corbet au dessin.
Todos contra todos, mato loco, pica y cholo, mucho menos menos, feliz a mi plomo. Somos de calle, mundo buca, vivimos la calle, mundo buca. Somos de calle, mundo buca, vivimos la calle. Esto es Río Rosa, donde todo pasa. Muchos tienen miedo, pero para mí es mi casa. Déjame decir mi ciudad peligrosa. La banda, la lucha, controla la cosa. Entre puño y palabra se gana el respeto. Siempre voy con mi. Yo soy angelino, búscame en el gueto. Los hombres de negro, controlame el juego. Vivimos en la calle, Río Rosa. Luchamos en la calle, seguimos en la calle, Río Rosa. Crecimos en la calle, somos de calle, mundo busca. Vivimos en la calle, mundo busca. Somos de calle, mundo busca.
C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec les films de la Gorgone et la revue Prime Cut. Culture Prohibée est disponible en balado diffusion sur différentes plateformes. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit La Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis, dit Amiral Lee. Une émission animée avec Thomas Roland, dit Le Loup-Garou Picard, and the last but not the least. Je veux bien sûr parler de Léo Magnin à la technique. Et puis on fait aussi un petit coucou à notre ami Damien Demet, la bête noire de Compiègne, qui nous a donné un petit coup de main à la technique. Salut les gens, à la prochaine.